Jean chapitre 6, verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu venu ici ? Jésus leur répondit : en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent : que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit : l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit : je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je propose de reprendre la lecture au verset 47. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Voilà, pour bien comprendre ce récit de l'évangile de Jean, il faut savoir que juste avant, s'est produit un événement qui a marqué les disciples qui ont suivi le Christ, puisque après avoir parlé et s'être exprimé devant une grande foule composée de plusieurs milliers de personnes, la foule qui suivait le Christ avait faim, et à partir de 5 pains et 2 poissons qui lui ont été remis par un petit enfant qui se trouvait là, bien, Jésus a pourvu aux besoins de cette grande foule. C'est le miracle qu'on désigne habituellement sous le nom de la multiplication des pains. C'est un miracle qui a tellement marqué l'esprit de ceux à qui y ont assisté que dans les 4 évangiles, il nous est rapporté. Vous savez que c'est le cas de peu de miracles opérés par le Christ. Ici, c'est le cas. Les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous rapportent ce qui s'est passé ce jour-là, tant ils en ont été frappés. L'évangile de Jean apporte souvent un éclairage différent des trois autres évangiles. D'abord, il a été écrit beaucoup plus tard. Ensuite, Jean, quand il l'écrit, poursuit un but légèrement différent de ceux des autres évangélistes. Les autres évangélistes veulent témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce à quoi ils ont assisté. Jean, lui, part du principe que les miracles qu'il rapporte, les paroles qu'il relate, sont déjà connues de la plupart des chrétiens et ont été rapportées, diffusées autour d'eux. Mais il écrit pour confirmer les chrétiens dans leur foi. Il écrit pour affermir la foi de ceux qui croient déjà. Il écrit pour prendre du recul par rapport à ce qui s'est déjà passé, ce qui a déjà été dit, ce qui a été rapporté concernant le Seigneur. Et ici, non seulement Jean nous parle de cette multiplication des pains, mais il va nous rapporter ce qu'aucun des autres évangélistes ne fait, à savoir cette discussion qui a suivi entre le Christ et ceux qui l'ont suivi après la multiplication des pains. Vous savez, il y a parfois des choses qui frappent le regard, et c'est bien que Dieu nous frappe parfois par des interventions dans notre vie, en par des délivrances glorieuses. Vous savez que Dieu se plaît parfois à nous chercher en ouvrant une porte. Notre vie était là face à une impasse et en réponse à la prière, Dieu l'ouvre, Dieu répond et ça nous frappe. C'est glorieux. Parfois même, il arrive à Dieu dans son amour de permettre que nous soyons interpellés par une difficulté, une épreuve, parfois une difficulté grave. Non pas parce que Dieu prendrait plaisir à humilier, à faire produire du mal dans la vie des hommes, mais il sait que parfois nous avons besoin de cela pour nous arrêter et considérer les choses. Et ainsi, le mal est changé en bien. Lorsque dans une difficulté, nous cherchons Dieu et le laissons nous rencontrer. Mais au-delà de ce qui frappe le regard, Dieu aimerait nous faire comprendre, et il a sa manière à lui de le faire en parlant à notre cœur et à notre conscience. Il aimerait nous parler, nous amener à comprendre des choses qui concernent notre âme, notre éternité, les besoins spirituels de notre cœur et de notre esprit. C'est un petit peu ce que nous trouvons dans cette discussion, ces échanges entre le Christ et ceux qui le suivent après la multiplication des pains. Première chose que vous avez remarqué sans doute, c'est que Dieu nous montre, le Christ montre à ceux qui le suivent ici, quelles sont les véritables valeurs. Quelles sont les véritables valeurs dans la vie. Il s'adresse à une foule qui l'a suivi alors qu'il a traversé le lac de Génézaret après la multiplication des pains. Et il va leur dire, mais vous me suivez non pas parce que vous vous intéressez réellement à ce que je suis, vous me suivez non pas parce que vous avez vraiment compris quels étaient les besoins de votre âme, mais vous me suivez simplement parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et Jésus va leur dire ensuite, travaillez, c'est-à-dire produisez des efforts, non pas simplement pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Bien sûr, nous pouvons nous appliquer à nous aussi cette parole, particulièrement au XXIe siècle, où la société s'articule de plus en plus autour de valeurs essentiellement matérialistes, où elle est capable de fournir toutes sortes d'efforts, de faire preuve d'ingéniosité pour la réalisation de ces valeurs matérielles, mais exclusivement matérielles. Convenez-en, les hommes et les femmes sont souvent capables de faire beaucoup pour ce qui n'est pas forcément illégitime en soi, mais qui ne dure qu'un temps. Regardez tel sportif, capable de s'entraîner, d'user envers lui-même d'une discipline de fer pour remporter telle ou telle compétition, parvenir à telle position dans le sport. Jésus ne nous dissuade pas de travailler, il ne condamne pas ces activités, il ne condamne pas non plus le sport. Certains apôtres, dans leurs discours, dans leurs lettres, feront allusion aux compétitions sportives de leur temps, sans les condamner pour autant. Jésus ne nous dissuade pas de travailler, bien au contraire. Il est tout à fait légitime pour un jeune homme, une jeune fille qui est à l'aube de la vie, de travailler sérieusement, de s'investir dans ses études, de préparer par la manière dont il travaille, prépare un projet professionnel, les années qui sont encore devant lui et préparer un projet qui va préparer non seulement son avenir, mais l'avenir de toute une famille qu'il pourra fonder. Vous voyez, ça, Dieu n'est pas contre ces choses, bien au contraire, il nous encourage vivement à les mettre en œuvre. Ne serait-ce, une parenthèse pour les jeunes gens, ne serait-ce que pour honorer leurs parents par l'avenir qu'ils se prépareront. Et c'est quelque chose ça, qui est tout à fait conforme au plan que Dieu forme sur nous. Mais ce que le Christ veut nous faire comprendre ici, c'est que nous aurions tort de nous arrêter, de fixer comme but ultime à notre vie ces aspirations, ces ambitions pour une vie matérielle, une réussite sociale, une réussite morale même. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Jésus emploie ce terme, la nourriture qui périt. Vous savez, même les plus beaux projets, même les vies les plus solidement bâties, socialement parlant, même les aboutissements intellectuels les plus développés, ils périssent avec la mort. Ils périssent avec la mort. Et donc cette parole du Christ nous encourage à prendre conscience que notre but final dans la vie ne doit pas être celui-là. S'il nous convient, s'il est légitime de travailler de déployer des efforts, de former des projets pour une réussite légitime dans la vie, dans l'existence, eh bien, elle ne doit en aucun cas, cette réussite, cette vie, être l'aboutissement de nos pensées et de nos désirs. Et puis, Jésus va même aller plus loin, parce qu'en s'adressant à ces hommes et à ces femmes qu'il a rassasiés par des pains, il va leur signifier que même le fait de suivre le Christ à cause de miracles qu'il aurait accomplis dans notre vie ne peut, là encore, être l'aboutissement de nos désirs et de nos pensées. Ce n'est pas ce pourquoi le Christ est venu. Ce n'est pas ce à quoi il nous appelle. Ce n'est pas ce à quoi Dieu destine la vie d'un homme, d'une femme, quel qu'il soit. Vous savez qu'il y a des gens qui, convaincus que les aboutissements matériels ne sont pas ce qu'il y a le plus important dans la vie, parviennent à la conviction que oui, ils ont des besoins spirituels, ils ont besoin de Dieu, et des hommes et des femmes parviennent par une démarche intellectuelle honnête à la conviction que oui, il leur faut rechercher dans des valeurs spirituelles ce qui est bon pour eux. Et ce sont des gens religieux, ce sont des gens qui cherchent, mais même là, Jésus nous dit, l'important, ce n'est pas finalement d'avoir une religion. L'important n'est pas tant même de rechercher à faire des expériences avec Dieu, parce que là aussi, Dieu étant puissant, glorieux, dans la manière dont il agit, ça interpelle de voir ce que Dieu fait. Parfois, nous pouvons réaliser dans notre vie des expériences avec Dieu, et ça nous marque. Quand Dieu répond à une prière, quand Dieu ouvre une porte de manière tellement nette dans sa providence que même des incrédules ou même des gens qui raisonnent sont obligés de s'arrêter et de dire « ça, c'est la main de Dieu, c'est bon ». Mais Jésus nous fait comprendre que même ça, il ne faut pas que ça en reste là, il ne faut pas que ça reste à ce stade. Des gens ont vécu des expériences glorieuses, même des miracles, mais ce n'est pas le miracle en lui-même qui est l'aboutissement de ce que Dieu veut produire dans une vie. Ce n'est pas une expérience avec Dieu qui doit être l'aboutissement de ce à quoi nous aspirons. Vous savez, il y a des gens qui viennent à Dieu pour être secouru dans une situation familiale difficile. C'est légitime, mais ce n'est pas le but. Des gens viennent à Dieu pour trouver une solution à une impasse au niveau professionnel. Et on a connu, je pourrais vous citer des exemples, des hommes ou des femmes à qui Dieu a ouvert une porte pour trouver un travail, alors que depuis des années, ils étaient dans une situation de précarité due au chômage. Dieu est capable de faire ça. Mais ce n'est pas le but que Dieu se fixe. Ce n'est pas là où Dieu veut nous emmener comme le point final. Certains même, toute leur vie durant, participent à des cérémonies, à des services religieux, par le souvenir, ou bien par reconnaissance envers une bénédiction que Dieu leur a accordée. Ils l'ont reconnue. Ils en reconnaissent le bienfait, et par reconnaissance envers Dieu, bien, d'une certaine manière, ils lui consacrent un certain domaine de leur vie. Et ça, c'est tout à fait louable. Vous savez que tout le monde ne le fait pas. L'Évangile nous rapporte cet événement tout à fait marquant de 10 lépreux qui ont été guéris de leur lèpre et sur lesquels un seul est revenu au Christ pour lui exprimer sa gratitude et sa reconnaissance. Et le Christ a bien sûr rendu hommage à l'attitude de ce lépreux. Et pourtant, ce n'est pas là la finalité et ce pourquoi le Christ se révèle à nous. Jésus va se révéler ici en disant « Je suis, moi, le pain de vie ». Ne travaillez pas, ne déployez pas des efforts pour la nourriture qui périt, mais vous devez avant tout déployer vos efforts, faire du but de votre quête, de votre démarche, de votre vie, n'est-ce pas, la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est bien différent de la nourriture matérielle, de ce qui satisfait l'âme, le corps, pour un temps, et qui périt. C'est différent même d'une expérience faite d'un bienfait reçu de Dieu lui-même, mais c'est le bienfait que Dieu voudrait par-dessus tout nous accorder, nous permettre de goûter, travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est Dieu qui donne cette nourriture. Il veut nourrir notre âme. Dieu, dira le Christ, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, pour comprendre ce vrai pain du ciel, il faut se replacer dans le contexte de cet échange. Jésus dialogue avec des Juifs. Or, les Juifs, non seulement le suivaient, et ce sont eux qui ont été rassasiés par ces pains et ces poissons qui ont été multipliés, mais les Juifs ont derrière eux toute une histoire religieuse, ils ont derrière eux toute une tradition, et ils connaissent sur le bout des doigts les récits de l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent la Torah. Ils se souviennent que dans le désert, sous la conduite de Moïse, alors que ayant quitté l'Égypte et qu'ils étaient en route vers la terre de Canaan, le pays promis, bien les Juifs ont été, le peuple d'Israël a été au bénéfice d'un miracle glorieux pendant des années, chaque jour, chaque matin, sauf le septième jour, qui était le jour du repos, bien Dieu les avait nourris miraculeusement par la manne. Manne, c'était cette nourriture que Dieu faisait apparaître à la surface du sol et qui nourrissait l'ensemble du peuple. Et les Juifs vont citer, se vexer au Christ en disant « Oui, mais nous souvenons de ce qui s'est passé, tu nous parles du pain qui descend du ciel. Bien, regarde, Moïse, lui, était un grand prophète et Dieu a honoré son ministère en faisant venir la manne chaque jour pour nourrir notre peuple pendant des années. Et toi, que fais-tu ?» Le Christ va leur dire « Voyez, même cela, c'est un glorieux miracle venant de Dieu, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. » Vous voyez, la communion avec Dieu, Jésus parlera de son Père céleste qu'il connaît, ne doit pas simplement être une question religieuse. Ça ne doit pas simplement être même le fait de dépendre, d'être reconnaissant de Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Mais c'est une œuvre qui est appelée à se produire dans le cœur. Une œuvre qui est amenée à se produire dans l'âme. Et le Christ dira « nos pères », car lui aussi s'identifie, ce peuple juif, ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Ça leur a servi un temps, ils ont connu la bonté de Dieu, et c'était glorieux. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Vous voyez, ce que Dieu désire pour nous, c'est supérieur au fait d'être nourri, même par une nourriture surnaturelle à laquelle Dieu pourvoirait chaque jour de notre existence. Non. Jésus dira « Je suis le pain de Dieu descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors, les disciples, plutôt ces juifs qui l'écoutent, vont être interpellés et lui dire « Mais Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et il va leur parler de lui-même. Et l'après-midi, bien, c'est ce que Jésus aimerait faire, nous parler de lui-même. Il le fait à travers les textes de l'Écriture et il le fait si nous nous laissons faire au fond de notre conscience par l'action invisible mais réelle et puissante du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, personne divine, aujourd'hui encore, rend témoignage à ce qu'il est et aux bénédictions qu'il veut nous accorder. Voilà. Jésus parle de lui-même comme du pain. Vous savez que souvent dans les évangiles, Jésus utilise des images frappantes tirées de la vie de tous les jours pour nous amener à réfléchir sur ce qu'il désire apporter à notre âme. Dans l'évangile de Jean, nous le voyons parler de ce qu'il donne, de ce qu'il est lui-même comme l'eau vive, qui désaltère l'âme et le cœur. Ailleurs, il parlera de lui comme la porte des brebis, la porte par laquelle des brebis peuvent quitter un enclos pour sortir à l'extérieur et trouver des pâturages ou franchir dans l'autre sens, pour revenir dans une bergerie. Il faudra comprendre ici aux Juifs qu'il leur convient de quitter une religion stérile pour goûter dans la foi au Christ qui visite en ce temps-là Israël à la liberté réelle, même si pour autant il devait être chassé du milieu du peuple juif. C'est ce qui se passera pour un aveugle que Jésus guérit, auquel il restaure la vue. Jésus parlera de lui comme du berger, parce que Israël était habitué à une vie pastorale. On savait bien comment on conduisait et gardait les brebis dans les pâturages. Et Jésus parlera de lui comme du berger de notre âme, celui qui veut nous conduire, veiller à ce que nous soyons en paix, en repos. Il parlera de lui comme de la lumière, ce qu'il éclaire notre vie dans les ténèbres d'un monde qui, de plus en plus, est ignorant de Dieu, et comme du chemin, parce qu'il sait que nous avons besoin de direction, il sait que nous avons besoin de nous diriger dans la bonne direction. Il dira « Je suis le chemin ». Ici, il dit « Je suis le pain de vie ». Le pain qui descend du ciel. C'est important de comprendre que le Christ n'est pas simplement un homme comme les autres. Il a été parfaitement homme. Et il nous faut être absolument au clair sur cette réalité, car si Jésus n'avait pas été parfaitement et réellement homme, il n'aurait pas pu nous secourir. Non, la Bible révèle qu'il fallait qu'il soit rendu en toute chose semblable à nous, et qu'il ait part à la nature humaine, pour que, en offrant sa vie, s'identifiant avec nous, il puisse nous représenter devant Dieu le Père, dans sa mort, mais aussi, on va y revenir pour terminer, dans sa résurrection. Mais il est aussi parfaitement Dieu. Il est le pain descendu du ciel, dans le sens où Christ, dès le premier jour de son existence terrestre, n'a pas commencé à exister, n'est-ce pas, dans le sein de Marie encore vierge, mais il était l'incarnation de celui qui, de toute éternité, est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, écrira Jean, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, tout ce qui a été fait par elle, ça nous dépasse, c'est remarquable. Mais Jean dira, la parole a été faite chair. Cet enfant que l'on voit grandir à Nazareth, et puis à partir d'environ 30 ans, être baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, et puis aller par les chemins d'Israël pour guérir les malades, purifier les lépreux, rendre la vie parfois à des morts, et offrir sa vie sur la croix, c'est Dieu lui-même. Il est le pain descendu du ciel. Il déclare encore, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà, tout ceci part de cette distribution de pain et de poisson. Ça fait du bien quand on a faim de se rassasier. Et on imagine que la foule qui suivait le Christ l'avait fait assez longtemps pour éprouver de la fatigue et une faim intense. Ça a dû leur faire du bien de manger ses pains et ses poissons. Mais Jésus nous amène bien entendu à prendre conscience que les besoins de notre âme sont plus importants encore. Bien des gens aujourd'hui sont plongés dans une grande perplexité, pour ne pas dire dans un grand désespoir, parce qu'ils sont éloignés de la source, de celui qui peut rassasier notre âme. La faim et la soif du cœur, la faim et la soif de l'âme ne peut trouver son rassasiement qu'auprès de Jésus, qu'auprès de Dieu. Mais Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un me reçoit, il n'aura plus jamais faim dans ce sens-là, plus jamais soif, que de gens qui ont travaillé, bâti pour les choses matérielles, les choses de la vie, et qui éprouve un tel vide intérieur. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il n'aura plus jamais soif. Cette aspiration de son âme trouvera en moi un plein rassasiement. Et puis, il nous parle du pain de Dieu, de lui-même, en disant qu'il est le pain de vie. Alors, pain de vie, parce que la vie véritable, c'est la vie de Dieu. C'est remarquable, la vie. Vous savez que l'homme, dans les progrès scientifiques qu'il a multipliés au cours des dernières décennies, au cours des dernières années, est capable de faire des choses remarquables. Aujourd'hui, la médecine est capable d'opérer des choses qu'on n'osait même pas imaginer il y a quelques années de cela. Mais jamais l'homme n'a pu et ne pourra produire de lui-même, par des moyens artificiels et humains, la vie. Parce que la vie, c'est mystérieux, la vie. Toute vie. Et la Bible nous révèle, parce que c'est une révélation, il faut la chercher, cette révélation, au-delà des connaissances scientifiques, pour réelles qu'elles soient, c'est Dieu qui donne la vie. Parce que Dieu est lui-même la vie. Il est le Dieu vivant et vrai. Il est l'auteur de la vie. Et cette vie, vous voyez, elle ne se limite pas. Il ne se limite pas à la vie physique, à la vie intellectuelle, à la vie morale. Non, il manque un élément, même dans la vie qui est glorieuse, qui est belle, il manque un élément essentiel qui a été perdu par le péché, c'est-à-dire perdu par la faute, la chute de l'homme, et qui amène une séparation avec son Créateur. Eh bien, c'est cette dimension spirituelle, cette communion avec Dieu qui seul peut rendre tout son sens à la vie. Et en ceci, Jésus dit « Je suis le pain de vie », parce qu'il nous fait comprendre que cette dimension, ce qui manque, ce qui est cassé, ce qui a été rompu, il peut le restaurer. Il vient, il est venu pour nous rendre cet accès possible à Dieu le Père. Je suis le pain de vie. Et puis c'est le pain de vie aussi dans le sens où en Jésus il y a l'assurance d'une espérance, et la Bible présente cette espérance comme une espérance sûre et solide. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection. Et à plusieurs reprises, le Christ va y faire allusion ici. Celui qui vient à moi, c'est pas passer de la mort à la vie. Je le ressusciterai au dernier jour. Non, la vie ne s'arrête pas à la tombe. C'est vrai que le corps descend dans le tombeau et nous passerons, à moins que nous soyons présents, que les chrétiens ne soient présents au jour de l'avènement du Christ, de son retour, de sa seconde venue, à laquelle la Bible rend témoignage. Oui, Christ revient pour juger les vivants et les morts. Il revient, ce n'est pas une invention de l'Église évangélique, c'est, je vous cite, le credo de l'Église catholique. Mais c'est avant tout la révélation que nous fait l'Écriture. Ce même Jésus reviendra de la même manière que lorsqu'il s'en est allé, diront les anges qui apparaîtront aux apôtres, qui restaient les regards fixés vers le ciel, alors que Jésus était dérobé à leurs regards. Bien, Jésus reviendra, et à sa venue, bien les morts en Christ ressusciteront. Tous les morts ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Et le pain de vie, celui qui donne la vie au monde, bien nous apporte également l'assurance, la certitude que, bien, au-delà de la tombe, au-delà de la mort, il y a pour nous une espérance qui ne trompe pas. En réalité, cette vie qui sera le partage des chrétiens sera le prolongement de la vie éternelle qui déjà commence au moment où ils placent leur foi dans le Christ. Vous voyez, je me souviens du témoignage de ce jeune homme, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, qui avant de devenir chrétien s'était fourvoyé dans toutes sortes de voies de traverse. Il avait pratiqué la méditation transcendantale, il avait fricoté avec les sciences occultes, et comme une conséquence inévitable de toutes ces pratiques, eh bien, il était rempli d'angoisse. Et même, il raconte qu'il ne pouvait pas s'endormir sans penser à la mort. Il était parfois réveillé en sursaut lorsqu'il s'endormait. Et la pensée de la mort le terrorisait. Puis, Dieu qui est bon l'a cherché. Il a dirigé les circonstances de la vie de ce jeune homme pour qu'il entende parler de lui. Et dans sa détresse, ce jeune homme a crié à Dieu. Vous savez ce qui est écrit, quand un malheureux crie à Dieu, c'est pas Dieu l'entend. Il le délivre de ses détresses. Et ce jeune homme a compris vraiment que oui, c'était pour lui aussi, que Dieu ne le mettrait pas dehors s'il venait à lui. Que Dieu avait donné son Fils pour qu'il reçoive le pardon de ses fautes, qu'il démarre en lui, qu'il commence en lui une vie nouvelle. Ce jeune homme raconte que, à partir de ce moment-là, la pensée de la mort ne l'effrayait plus. Et ça s'est fait par tout un cheminement progressif. Puis un jour, en rentrant d'une réunion, en rentrant d'un culte, il est arrivé dans la maison de sa famille, et ce jeune homme raconte... pas eu de vision, disait-il, c'est pas quelque chose que j'ai vu de mes yeux, mais voilà, j'ai eu cette assurance absolument inébranlable que l'éternité s'ouvrait devant moi et que la mort, eh bien, serait non pas un point final, ni le point du départ d'un jugement que j'aurais à subir, mais le début d'une éternité passée dans la gloire et la consolation du Dieu glorieux qui s'était révélé à moi en Jésus-Christ. Et il en sautait de joie, physiquement, littéralement. Alors, voyez, cette assurance, elle peut revêtir pour les uns et les autres toutes sortes de formes, elle peut se manifester de manière différente, mais c'est une réalité. Et on ne peut pas la recevoir en restant, n'est-ce pas, comme on est, avant de la recevoir. On ne peut pas recevoir cette assurance en continuant de vivre comme on a vécu jusque-là. Jésus dit, je suis le pain de vie qui donne la vie au monde. C'est une vie nouvelle qui commence dans l'âme, dans le cœur. une assurance glorieuse qui transforme absolument notre manière de concevoir la vie, la mort, nos réactions, qui nous amène à faire de Dieu notre trésor et à trouver dans sa parole, non pas une source d'instruction théologique, une suite même, je dirais, de commandements ou de préceptes moraux ou éthiques, mais cette nourriture pour notre âme. Le pain, une image appropriée pour chacun de nous. Parce que le pain, c'est une nourriture nécessaire. Vous avez remarqué qu'on peut se passer de plein de choses. Même sur le plan culinaire, sur le plan gustatif. Bon, si vous ne pouvez pas manger de poisson, mangez pas de poisson. Vous avez les gens qui aiment la viande. Mais on n'en mange pas tous les jours, on n'en mange pas tous les repas. Certains condiments seront utilisés ici ou là. Mais le pain, c'est une constante. Chacun a besoin de se nourrir de pain. Et qui que nous soyons, nous avons besoin, notre âme a besoin, de la communion du Christ, de goûter l'amour du Christ, de goûter l'assurance qu'il apporte par le pardon de nos péchés et de nos fautes à cette réconciliation, cette voie qu'il nous ouvre dans la communion de son Père. Le pain est la nourriture des rois, des plus élevés, comme des pauvres. Vous voyez, le roi dans son palais, pour accompagner ses mets exquis, il a du pain. Mais le pauvre, lui aussi, pour accompagner sa pitance, utilisera du pain. Vous voyez, le salut de Dieu est pour tous, quel que soit notre milieu social, notre lieu d'origine, notre histoire. Jésus dit, nous l'avons lu ici, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il nous fait comprendre que son salut est pour nous, qui que nous soyons. Et puis le pain est une nourriture de tous les jours. Et là, c'est un point commun avec la manne à laquelle Dieu pourvoyait chaque jour, chaque matin, pendant des années, lorsque Israël ouvrait les yeux, on se rendait là, à l'extérieur, dans le camp, et Dieu avait pourvu à la nourriture. Bien, Jésus s'engage, il nous donne la promesse que chaque jour de notre vie, il sera présent avec nous, en nous, pour nous accompagner dans notre périple, jusqu'à son retour, jusqu'au moment où nous fermerons les yeux à la terre et où nous goûterons à son héritage éternel. Il donne enfin le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et le monde, bien, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui vivent sur la terre. Le mot « monde » dans la Bible, dans les textes originaux, signifie littéralement la terre habitée. Et ce sacrifice, ce don que Jésus nous apporte, eh bien, il est pour chacun. Nul n'en est exclu, c'est pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, oui, on le dit souvent, quiconque, eh bien, c'est vous, c'est moi. Cet appel est à la fois universel et particulier. Il est pour nous, il est pour vous. Alors comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que nous pouvons recevoir ce bénéfice? Bien grâce à l'œuvre de Jésus, de manière singulière, pour faire réfléchir les Juifs qui l'écoutent et qui, vous relirez ce texte, au départ n'y comprennent rien. Christ va faire comprendre que le pain qu'il donne, le pain de vie, c'est sa chair qu'il donne à manger. Alors les Juifs sont interpellés, ils réfléchissent. Et ceux qui le voudront, des années plus tard, le comprendront quand ils assisteront ou entendront parler de ce moment où Jésus a été cloué sur le bois. Ses mains ont été percées par les clous de ses bourreaux, alors qu'il a été livré par les Juifs aux Romains, qui après un simulacre de procès sur la demande des sacrificateurs et des religieux juifs, l'ont pendu au bois. Puis il a été déposé dans le tombeau après que sa mort a été officiellement constaté, et le troisième jour, Dieu a déployé en lui sa puissance et l'a ressuscité des morts. Vous voyez, mais il fallait que Jésus passe par là. Voilà en quoi il dira, le pain du ciel, celui que je vous donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il devait donner sa vie. Toujours dans l'évangile de Jean, Jésus dira, j'ai reçu de mon Père pouvoir de donner ma vie, mais j'ai reçu pouvoir de la reprendre. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure ? Bien, à cause de la réalité du péché dans nos vies. Parce que nous l'avons dit, ce qui nous coupe, ce qui nous prive de la vie, c'est cela, c'est la culpabilité qui a pu s'accumuler dans nos vies à chacun, par nos œuvres, nos pensées, manière dont nous nous sommes comportés dans la vie, dans l'existence. Et ça, c'est une réalité. Quand nous repensons à certains épisodes de notre vie, nous arrive, et c'est une bonne chose, d'en éprouver une honte légitime. Et surtout, nous voyons que la manière dont nous nous sommes comportés nous empêche de faire valoir devant Dieu ce que nous sommes et de solliciter son approbation. Pourtant, Dieu a pourvu, en donnant Jésus, en offrant son Fils, il a pourvu à une solution glorieuse. Il nous prouve son amour en ce que, malgré notre péché, Christ est mort pour nous, non seulement malgré notre péché, mais pour nos péchés. Christ les a portés en son corps sur le bois. Lui, parfaitement Dieu, s'est fait homme pour nous représenter, pour vous représenter. Et voyez-vous, la vie que nous avons menée sans lui, bien il l'ensevelit dans sa mort. Il a dû payer pour la mettre à mort et l'ensevelir pour toujours. Mais lorsqu'il ressuscite, voyez, c'est vous et c'est moi que Dieu se propose de ressusciter, de ramener à la vie pour que nous commencions avec lui une vie entièrement nouvelle, une existence parfaitement transformée. Sommes-nous prêts à l'accepter? Sommes-nous prêts à le croire? Si nous le faisons, nous accomplirons ainsi l'œuvre de Dieu. Car les Juifs, ce jour-là, demandent au Christ, mais comment, Seigneur, accomplir l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le pain de vie qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Rien ne le remplace. Les plus belles des réussites sur la terre, les plus belles des réussites sociales, les plus beaux achèvements intellectuels ne pourront pas se substituer à cela. Mais quelle paix pour celui qui reçoit Jésus-Christ comme le pain de vie et le laisse nourrir son âme pour la vie éternelle. Je propose que nous nous recueillions quelques instants et que, ensemble, nous invoquions le nom du Seigneur.